I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte. Et comme vous le constatez, c'est toujours filmé. Donc je suis avec le très beau Julien Charpentier, le très grand, le très baraqué. Je vous avais promis qu'il était comme ça. Il l'est. Voilà.
Salut à tous, salut Stéphane.
Salut Julien. Et avec un merci à la technique qu'on ne peut pas voir parce que lui, il n'a pas le droit à la caméra. Je suis sûr qu'il va mettre sa tête un jour, à un moment donné, il va poser sa tête pour faire style.
Comme le développeur de Mortal Kombat.
Exactement, il va apparaître, quoi. Et je suis avec toi, Julien, pour parler de un film formidable, un classique. Voilà.
Il était temps qu'on arrive enfin à ce moment où on va parler du Citizen Kane du cinéma d'action, quoi.
Voilà. De l'acteur, on va dire, du
Laurence, ouais, Citizen Kane, l'acteur.
Le Laurence Olivier du cinéma d'action, Steven Seagal.
Voilà.
Voilà. Et on commence par le début. Alors, on a fait une vidéo sur Stéroïdes, une vidéo que vous pouvez aller voir, en fait, qui était sur, Échec et mort, qui est le deuxième Steven Seagal. Mais là, on va parler du premier. On va parler de Nico, Above the Law en anglais, réalisé par Andrew Davis, et qui est, contre toute attente, plutôt bien. C'est-à-dire que c'est plutôt un bon film.
Comment ça, contre toute attente ?
Contre toute attente, parce que disons qu'en fait, il n'était pas encore rentré dans ses petites habitudes narcissiques, on va dire, disons ça comme ça, quoi. Mais d'abord, avant de commencer, tu vas nous pitcher, Nico.
J'étais sûr que tu allais poser cette question. Et mine de rien, c'est pas si facile de pitcher Nico, parce que c'est quand même un film qui a un peu trop d'histoire par rapport à ce qu'il a envie de raconter.
Par rapport à Steven Seagal, déjà.
Voilà. Globalement, pour essayer de résumer très rapidement, on va dire que c'est l'histoire d'un ancien agent, d'un ancien militaire qui a travaillé plus ou moins proche de la CIA, devenu flic, qui s'appelle Nico Toscani, qui va se retrouver à devoir enquêter sur un attentat qui a lieu dans une église, et ça va le faire remonter à tout un souk de trafic de drogue, de CIA, de flics corrompus, tout ça en même temps. Heureusement, Steven va nous régler tout ça à grands coups de patate dans la gueule, et ça va bien se passer.
Ça va bien se passer, ouais. Non, mais surtout, en fait, le gros coup de patate dans la gueule, les cassages de bras, les je tire d'abord et je discute après, quoi. C'est Steven.
Voire je tire d'abord et je retire après pour être sûr que t'es mort.
Pour être sûr qu'il n'y a pas à discuter, quoi. Donc, non, c'est. Mais alors, attends, on se moque, on est déjà parti, en fait, sur Steven, quoi. Mais faut pas, tu vois, je veux dire, c'est déjà un. Revenons un peu en arrière, donc ça date de 1988.
Oui.
Voilà. Ça a été ce qu'on appelle pour Warner un sleeper hit. C'est-à-dire que c'est un film en fait qui n'était pas du tout programmé pour être un carton. En fait, ils avaient mis un tout petit budget dessus, mais c'est l'agent Michaelowitz qui a vraiment insisté en fait auprès de la Warner pour pouvoir dire. Enfin, en gros, son gros trip c'était je peux transformer n'importe qui en star et mon prof d'aïkido, en gros, je peux le transformer en star et mon prof d'aïkido, il se trouve que c'est Steven Seagal. On a résumé très vite, parce que c'est pas tout à fait ça. En vrai, Steven, c'était quelqu'un qui gravitait un petit peu à l'époque, en fait, dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il a entraîné, si j'ai bien compris, parce qu'on ne sait jamais trop avec Steven Seagal, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai et tout.
On y reviendra là-dessus. Voilà.
Mais il a entraîné Sean Connery sur Jamais plus jamais, notamment.
Oui.
Donc, pour des scènes, justement, de mano à mano, quoi. Et, en gros, bon, bah, toute l'idée, c'était que, on allait prendre ce type-là, raconter, entre guillemets, son histoire, c'est-à-dire ce que lui, il a vécu, parce qu'il arrive quand même, je crois qu'au moment où il tourne le film, il avait à peu près déjà 36-37 ans.
Juste comme ça. Hein.
Voilà. Et en gros, on va vraiment façonner en fait, tout un film autour de lui, et ça a été un carton. Voilà. J'ai envie de dire contre toute attente aussi, mais on va dire beaucoup contre toute attente dans cet épisode. Quoi.
Bah, c'est vrai qu'il y a eu, en fait, comme tu l'as dit, il gravitait déjà, mais c'était quand même, c'était pas n'importe, c'était pas, il a pas pris un inconnu. C'était son prof d'aïkido, oui, mais c'était pas un inconnu, puisqu'on a quand même un gars qui avait un dojo d'aïkido à Los Angeles, et qui avant ça avait un dojo d'aïkido au Japon, puisque ça a été le premier occidental à en ouvrir un, et qu'il est quand même septième dan d'aïkido. Donc le gars, il ne rigolait pas à l'époque, puis à l'époque, il avait pas mon physique, il était beaucoup plus fluet, donc globalement, c'était. Il est aussi arrivé avec une proposition qu'on n'avait jamais vue à l'écran, en fait. Et c'était aussi ça qui était intéressant. c'était que l'aïkido, on avait eu plusieurs phases. On avait eu le Bruce Lee qui était la rapidité et la hargne. On avait eu Jackie Chan qui était le côté clown, le côté mais bon et acrobate, pas seulement clown. On a eu je sais pas moi Michael Dudikoff, le grand Michael Dudikoff qui était plutôt j'ai du mal à faire un coup de pied retourné, mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'il y a des monteurs. Et puis est arrivé tout d'un coup ce gars qui lui proposait quelque chose d'entièrement nouveau, qui était basé sur des empoignades extrêmement rapides et où en général il se sert de la force de l'adversaire pour le démonter en 3 coups. C'est ça qui est étonnant chez Steven.
C'est le principe de l'aïkido, si j'ai bien compris. Moi, j'en ai jamais fait, mais comme on peut le constater, n'est-ce pas? Mais en fait, le truc, c'est que...
Steven, il en a fait, comme tu peux le constater.
Comme on peut le constater, il est 7e dame de pancake, quoi. Mais le... Enfin, aujourd'hui, hein, parce qu'à l'époque, en fait, si tu veux, c'est ça aussi. C'est le truc, il était tout mince, quoi.
Alors moi j'ai une vieille théorie, hein, c'est la théorie du bug de l'an 2000, c'est que on glosait beaucoup à la fin des années 90 avec le bug de l'an 2000 en disant oh là là, est-ce que les ordinateurs vont encore fonctionner? Il n'y a pas eu de problème, par contre il y a eu un bug dans la tête des gens et je pense que Steven Seagal a été remplacé, il a fait un bug et depuis il a pas fait un bon film. Sauf ton respect Yannick Dahan, si tu nous entends, on t'aime quand même.
Lui c'est tout tapé, hein.
Ouais, ben lui il est courageux, hein, parce que
on se tape les anciens. Ça va.
Bah, on se tape en fait la première décennie qui est la seule où il a fait des films qui sont pas tous parfaits, mais des films.
Allez, disons 15 ans. Le dernier qui est un peu rigolo, c'était comment ça s'appelait, Half Past Dead.
Mission Alcatraz.
Mission Alcatraz, c'est un peu rigolo.
Ouais, on va passer là-dessus. Retour à Nico, plutôt.
Retour à Nico. Alors, scénario, alors co-écrit, soi-disant, par Steven Seagal. Mais en fait, tout le film commence. En fait, le film est fait pour brouiller les pistes sur, comment dire, est-ce que c'est la vraie histoire de Steven Seagal? Est-ce qu'il a vraiment fait partie de la CIA? À une époque, il disait qu'il avait exfiltré le chat d'Iran, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est tout un tas de trucs comme ça, complètement fantasque, hein, on va dire, quoi. Surtout quand tu vois le bonhomme, quand tu vois comment il est maintenant, parce que, à la limite, à l'époque, en 1988, tu pouvais y croire. Tu pouvais dire, tiens, ils ont vraiment, ils sont vraiment allés chercher un vrai mec, en fait, qui a connu l'action, quoi.
D'ailleurs, on y a cru. C'est-à-dire que, quand tout ça a été annoncé, que globalement, Nico s'inspirait de la vie de ce mec dont on n'avait jamais entendu parler, qui était une brute sur un écran, puis qui avait une gueule de cinoche au final, hein, parce que il a une tronche particulière, ouais. Mais il a une tronche particulière qui attire aussi la caméra. Et globalement, bah, on a tous cru au fait que ce type-là avait peut-être travaillé, bon, en même temps, on avait 12 ans, hein, mais que ce mec avait peut-être travaillé pour la CIA, que ce gars, parce que c'est là que la légende Seagal s'est construite de façon extrêmement intelligente, c'est en disant, on va prendre des éléments qui sont vraiment des éléments de la vie seagalienne, d'autres qui sont sans doute des fabrications, et on va les mélanger. Le meilleur mensonge, c'est celui qui prend plein de vérité dedans, c'est connu.
Ouais, mais alors, la vie seagalienne, quoi. Ça, c'est beau.
C'est un adjectif.
C'est un truc, tu devrais écrire ton livre. La vie seagalienne.
Là-dedans, il y en a déjà plusieurs tomes.
Voilà, c'est ça. Donc, alors, qu'est-ce qui fait que finalement, parce que faut être honnête, hein, soyons un petit peu clairs, quoi. Steven, on aime beaucoup. Parce que c'est très violent, parce que c'est très, comment dire, parce qu'il se la surpète comme c'est pas permis de manière générale, quoi. Généralement, parce que c'est pas...
Il est très beau. Comme le rappelle absolument toute la distribution de tous les films dans lesquels il est.
Les hommes et les femmes.
Oui, oui.
Non, les hommes, ils disent qu'il est très fort, les femmes, elles disent qu'il est très beau. Mais celui-là fonctionne, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc. Alors, déjà, je pense qu'il y a Andrew Davis.
Oui. Hein,
ça, il faut en parler, parce qu'il a aussi coécrit le scénario. Il y a des allures de polar, entre guillemets, à l'ancienne, j'ai envie de dire. Quoi. C'est-à-dire que le seul élément, on va dire, un peu. Nouveau à l'époque, c'était Steven, quoi. C'est-à-dire dans ce film-là, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans ce film, parce que c'est le seul film où on voit qu'il perd ses cheveux. Si tu veux, parce qu'après, il a fait des implants et tout, donc.
Steven ne perd pas ses cheveux. Steven les laisse partir.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais tu vois, ça, c'est un autre truc. On est d'accord que normalement, les Chuck Norris Facts, ça aurait jamais dû être des Chuck Norris Facts. Ça aurait dû être des Steven Seagal Facts.
Voilà.
Je veux dire que les gens qui ont vu les films de Steven Seagal savent, en fait, si tu veux, que les Chuck Norris Facts, en fait, c'est. Des Steven Seagal.
C'est ça. L'humilité de Steven qui fait que c'est pas lui-même. Il les a donnés à quelqu'un.
Voilà. Et alors, bon, on y a cru, j'ai envie de dire qu'on savait que c'était pas non plus Laurence Olivier, malgré ce qu'on a dit au début. Quoi.
Ça, c'est vrai. Bon, c'est pas exactement Laurence Olivier. Mais il y avait, enfin, quand on voit par exemple le générique d'introduction du film, donc, qui est globalement lui dans un dojo, habillé en kimono traditionnel, en train de faire quelques prises, pendant qu'on voit des photos de lui. C'est un de ces moments où on mélange réalité et fiction, puisque globalement, il a vraiment eu un dojo comme ça. Il parle vraiment japonais, donc c'est pas une blague. Il a vécu plusieurs années au Japon, sa première femme est japonaise. Ils ont d'ailleurs eu des enfants ensemble, des ou un, je sais plus, parce que je suis pas non plus...
Deux enfants,
d'accord. Tu es plus au courant que moi sur la descendance de l'ami Steven. Et les photos qu'on voit, c'est effectivement des photos de Steven Seagal, tout petit, tout minot. Donc il y avait ce mélange. Quand tu dis effectivement pourquoi le film a marché, moi je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que ça fait partie de cette catégorie qu'on va appeler le polar urbain, qui est un genre qui à ce moment-là fonctionnait en plus plutôt bien, parce qu'on en avait vraiment beaucoup. Et donc, le polar était quelque chose qui fonctionnait. Et le polar urbain, il y avait cette sécheresse, cette violence, ce côté aussi 90 minutes. Ce côté, on n'avait pas des intrigues extrêmement compliquées, on avait des intrigues qui étaient droites et qui nous permettaient aussi...
Donc, qui étaient droites ou de droite?
Non, droite tout court.
À droite.
Qui allait d'un point A à un point B sans
prendre trop de temps. C'est un peu aussi de droite, faut le dire.
Un peu. Et ça aide aussi, effectivement, à ce que le projet fonctionne, puisque tu te retrouves dans un terrain qui est connu, où tu vas avoir des trahisons, des morts inattendues ou pas, où tu vas avoir des scènes d'action de façon régulière. Donc, c'est fondamentalement une formule qui est connue. D'autant que tu l'as dit, ça a été réalisé par Andrew Davis, qui, trois ans avant, a réalisé... globalement, le même genre de véhicule avec Sale temps pour un flic, qui est probablement le meilleur ou le moins mauvais film de l'ami Chuck. Je ne vais pas me faire que des copains.
Sale temps pour un flic, j'allais dire Sale temps pour un film.
Sale ça,
temps
c'est
pour
l'émission.
Sale temps pour un flic, on se demande d'où vient l'inspiration. Quoi.
Je ne sais pas.
Sale temps pour un flic, pourquoi ça fonctionne à peu près, on va dire, si ce n'est que tu as cette espèce d'élément étrange qui est Chuck Norris au milieu. Quoi. Et puis, bon.
Le proleur.
Le robot.
Le robot, fin, le proleur.
Qui est un peu bizarre, quoi. Mais qui, je pense, était déjà dans le scénario d'origine. C'est parce qu'à la base, Sale temps pour un flic, je vais y arriver, Sale temps pour un flic, c'était en fait un projet pour Clint Eastwood. Donc bon, Clint s'est dit non, c'est un peu con pour moi ça, tu vois, c'est un peu trop teubé là, donc je vais le mettre de côté quoi.
Faut dire aussi que c'est une époque où la moitié des projets étaient pour Clint Eastwood.
C'est le film d'action. Mais ça y ressemble, c'est-à-dire que t'as dans Sale temps pour un flic, t'as quand même une scène où il se fait passer à tabac dans un bar, tu vois, et tu vois tout de suite le côté un peu maso de Clint qui aime bien s'en prendre plein la gueule dans ses films quoi. Et surtout à cette époque-là, là ça comment dire, tu t'achètes quoi, tu vois, ce que Chuck Norris ne faisait pas vraiment hein, dans son cinéma quoi. Mais bon après c'est Nico, je trouve que c'est quand même un peu un cran au-dessus que
ah, je suis entièrement d'accord. Déjà parce que tu disais que Steven c'est pas Laurence Olivier, ce qui est tout à fait juste, mais c'est pas non plus Chuck Norris. C'est le degré un peu au-dessus déjà parce que il joue pas tellement mieux, mais je trouve qu'il apporte quelque chose de plus à l'écran. Là où Chuck, il est monolithique, c'est à peu près tout ce qu'il sait faire. Il a pas cette espèce de course, par exemple, tu vois la course du Steven,
ah oui, non,
qui te fait un secouet de bras absolument incompréhensible.
C'est pas ce qu'il fait avec ses bras et tout.
Bah c'est pour courir plus vite.
Mais il y avait un peu de tout ça déjà, hein. C'est-à-dire que. Alors après, moi, ce que j'aime beaucoup en fait avec Nico, et ce qui fonctionne encore aujourd'hui, je trouve, c'est l'aspect expéditif. C'est-à-dire, tu en as un peu parlé, mais qui est lié à l'aïkido, mais pas que en fait. C'est-à-dire le côté brutal du personnage, qui pouvait, si tu veux, à l'époque où c'était pas borderline pervers narcissique comme il est devenu en fait depuis quoi, ce qui pouvait fonctionner en fait dans un polar de ce type là quoi. Il y a notamment cette scène où ils attaquent sa bagnole, là ils s'y mettent à 5 en fait avec des mitraillettes pour lui défoncer la caisse. Il s'en sort. Les mecs lui disent, il les tient en respect. Les mecs lui disent, tu peux pas tous nous tuer. Et il fait, ok, ça coûte rien d'essayer quoi. Il en bute un direct, quoi. Donc ce qui calme tout le monde. Tu vois. Et franchement, quand tu vois ça, surtout à l'époque, en fait, même à l'époque de Clint Eastwood, à l'époque de tous ces trucs là, en fait, c'était brutal quoi. C'était vénère, c'était expéditif, tu vois. La mort de, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi dans ce film, mais il y a aussi ça dans Sale temps pour un flic. C'est le méchant quoi. Henri Silva. Moi, j'aime beaucoup Henri Silva. C'est-à-dire une vraie trogne, en fait, qu'on a vu dans les polars, italiens, ce genre de choses, quoi. Et Henri Silva, qui se fait déblayer, non, je spoil, hein, je suis désolé, hein, mais voilà, qui se fait déblayer en littéralement 2 secondes à la fin. C'est-à-dire, il lui pète le bras, il lui pète la tête, et c'est règle, le mec, il tombe au sol, quoi.
Il lui ruine la colonne vertébrale, quoi, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est magnifique.
Bonne nuit.
Ouais, non, mais c'est magnifique. Faut dire que, voilà, ça, on l'avait pas vu, effectivement. On n'avait pas vu ce genre de truc un peu vénère comme ça. En tout cas, dans un polar, dans un film d'action, typiquement hollywoodien.
Puis t'avais aussi le paradoxe de Steven Seagal, parce que effectivement t'as, alors je viens de, j'ai fait le Vietnam, j'ai appartenu à la CIA, je suis un dur à cuire, un dur de dur qui te pète la gueule, et en même temps je suis un bon père, un bon mari, un bon amant évidemment, je vais à l'église, j'aime beaucoup ma maman, où t'as cette espèce de mélange assez étrange entre l'espèce d'image de l'Amérique puritaine avec la brutalité qu'il avait envie de l'emmener, qui donnait un, parce qu'il a fait ça plusieurs fois, hein, dans le très très bon Justice Sauvage, il y a ça aussi, ce côté, je suis un bon catholique, mais si tu m'emmerdes, je te mets du riot gun dans la gueule.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que le mec, il s'imagine comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'en fait, c'est sa vision du monde. qu'il applique à son cinéma. Bon, comme on l'a dit, c'est vaguement écrit. Alors lui, il se targue de décrire tous les films dans lesquels il a travaillé, quoi. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, on en rigolait en antenne, quoi, mais il s'étonne effectivement à chaque fois de ne pas avoir l'Oscar. Mais nous, un peu moins, tu vois, contre toute attente, on s'étonne pas. Mais c'est vrai que, comment dire, il se pose, en fait, il oppose, en fait, en gros, une vision de la vie, quoi. Je pense que Steven, c'est comme le disait Yannick, dans parce que c'est lui qui a écrit l'épisode de, comment dire...
De
stéroïdes. En fait, Steven Seagal ne s'explique pas, quoi. Il se vit, tu vois. Donc voilà, quoi, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Bon, revenons sur Andrew Davis, par contre, parce que ça, je pense que c'est quand même un nom important dans la réussite du film, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, comme on l'a dit, en fait, c'est quelqu'un qui a écrit le scénario du film. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris, quelque part, Steven, et par la force des choses...
Preuve en main, il en a fait plusieurs.
Voilà, ils vont retravailler ensemble. Enfin, ils ont fait deux, je crois, c'est ça. Enfin, c'est Under Siege, quoi. Enfin, Piège en haute mer, quoi. Qui a fait de lui une superstar, quoi.
Deux, une superstar.
Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, mais c'est étonnant. Tu vois, Andrew Davis, on en avait parlé. On avait consacré un épisode
Fugitif,
en fait, voilà, pour parler d'Andrew Davis. Et ce qui est étonnant, c'est de le voir se retrouver sur un projet comme ça, qui finalement, en fait, a les plus ou moins les mêmes qualités. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on est dans une espèce de logique où on te fait un film sec, direct, sans fioritures, sans affrêterie visuelle. Et je trouve, alors, tu vas probablement me regarder avec tes gros yeux là, mais c'est un petit peu quand même, tu vois, je suis très intimidé, surtout que maintenant les gens peuvent le voir en vidéo, quoi. Je trouve que ça fonctionne plus dans Nico que dans Le Fugitif. Alors peut-être on peut discuter.
Tu as totalement perdu l'esprit, mais c'est pas grave, tu es mon ami. Donc
non, pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'en fait dans Le Fugitif ça fonctionne, je vais pas dire le contraire, mais ce que je veux dire en fait c'est que c'est un film qui est presque plus un film de studio, on va dire, si tu veux.
Oui.
Alors que là, en fait, c'est un polar, si tu veux, c'est un polar musclé. Et mine de rien, en fait, en gros, bon, à cette époque-là, surtout dans les années 80, il y avait des facilités, en fait, de faire des trucs qui ressemblent à un truc des années 80 un peu pété, quoi, tu vois. Donc, j'ai pas de truc en tête, mais il y a pas mal de films, on va dire, qui étaient, ben, prenons, alors, je vais me parjurer, quoi, mais prenons Cobra, par exemple, si tu veux, de George Cosmatos. Bon, bah, Cobra, le style visuel, tu peux pas le louper, c'est un film des années 80, quoi. Alors que Nico avait cette prétention, justement, en fait, de reprendre ce qu'il y avait un petit peu de meilleur dans les années 70, et de le foutre en fait dans les années 80 et juste en mettant, juste comme je l'ai dit tout à l'heure, Steven au milieu, qui est le seul vrai élément années 80.
Ouais. C'est Andrew Davis a toujours été on en a parlé de la sécheresse, donc on va pas y revenir 400 fois, mais c'est aussi effectivement, il est très influencé par les années 70. Il a tendance à faire un cinéma aussi, par exemple, si tu veux chercher une belle photo, tu vas pas chercher chez lui. C'est quelqu'un qui va souvent faire des photos assez froides, presque naturalistes. Il y a assez peu d'éclairage. Et en plus, c'est un natif de Chicago, et on le sait, puisque que ce soit Sale temps pour un film...
Sale temps pour un flic.
Pour un flic, moi aussi je m'y mets. que ce soit Nico, que ce soit Le Fugitif, que ce soit Poursuite, Le Grand Poursuite, que ce soit celui avec Gene Hackman dans Opération Crépuscule, ils se déroulent tous à Chicago. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant chez lui, c'est que on a tellement l'habitude de voir Los Angeles ou New York, on dirait que c'est les deux seules villes aux États-Unis que dès qu'on parle de cinéma, avec un petit peu San Francisco de temps en temps, que quand tu sors de ce cadre-là, ça offre aussi de nouveaux panoramas, de nouveaux plans, de nouveaux immeubles, de nouveaux quartiers qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est quelqu'un qui s'est filmé, je trouve, assez bien le froid. Bon, c'est pas le cas pour Nico, mais dans la plupart des films se déroulent en hiver. Il s'est assez bien filmé les quartiers pauvres. Il y a pas mal de ces films qui se déroulent dans des endroits vraiment que t'as pas l'habitude de voir au cinéma et qui donc fonctionnent très bien avec la sécheresse qu'il veut donner.
Mais ça va aussi avec le personnage de Steven Seagal, ça, pour le coup. C'est ça qui est assez étonnant sur Nico. C'est pour ça que, quelque part, en fait, il y a un espèce de... je veux dire, le succès du film, il se comprend, parce que je pense que si on avait commencé avec un film complètement fantasme comme Échec et mort, tu vois, si tu veux qu'ils soient honnêtes, quand même un gros nanar, hein, tu vois, un gros nanar rigolo. Je te vois, je te dis que t'allais me faire tes gros yeux, tu vois.
Je te fais mes gros yeux.
Voilà, c'est un gros nanar rigolo, mais, on aurait quand même commencé comme ça, il aurait pas été pris au sérieux, Steven. Bon, déjà que.
Honnêtement, je ne sais pas, parce que c'est vrai que Nico est un petit polar très sympa, mais c'est ce que je disais au tout début quand tu m'as demandé de le résumer. C'est quand même un film qui est presque trop écrit par rapport à ce qu'il a à raconter. C'est-à-dire que t'as la CIA, t'as les gens corrompus, t'as les flics corrompus, t'as une histoire d'amitié à développer, t'as une histoire familiale à développer, t'as cette histoire de prêtre qui se fait assassiner dans un attentat, puis faut que tu... Ça fait beaucoup, beaucoup de choses pour un film qui fait 90 minutes.
Oui, enfin, alors bon, il fait 1h40, hein, je crois.
Bon, 100 minutes.
Ouais, allez, voilà, tu sais, donc, je t'accorde les 10 minutes qui restent, quoi. Non, en fait, le truc que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est que oui, je pense que ça, c'est plutôt bien écrit. Enfin, encore une fois, pour un film comme ça, c'est-à-dire que c'est pas presque trop écrit. C'est-à-dire que, en gros, si tu veux, toutes les connexions entre les personnages, tu les suis à peu près, tu les comprends, quoi. Tu vois, c'est-à-dire la connexion entre Steven Seagal, même si la scène est un petit peu ridicule au début, hein, pour être tout à fait honnête, quoi. C'est un des trucs les moins réalistes, c'est-à-dire qu'ils sont quand même dans la forêt de Vietnam de Fontainebleau, si tu veux. Donc,
oui.
Voilà, c'est un peu ça. Tu sens pas qu'ils sont allés tourner la scène exprès là-bas par souci de véracité, quoi. Même si c'est un petit budget, quoi. Et en gros, cette scène, elle est un petit peu facile, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, t'as Steven qui est contre ce que les mecs font. Ils disent, attendez, qu'est-ce que vous foutez là? Vous en profitez pour faire un trafic d'opium. En gros, moi, je mange pas de ce pain-là, quoi, si tu veux. Et il se casse et les mecs le laissent partir. Et 15 ans passent. Et tu fais, ah d'accord, donc tout va bien, quoi. Et en fait, d'un seul coup, les mecs se disent, mais putain, il va nous faire tomber, ce con-là. Bon, ça fait partie des trucs un peu, comment dire, années 80, on va dire, si tu veux, dans l'écriture. C'est, on se prend pas trop le chou, hein, on va dire que ça passe, et puis c'est réglé. Mais sorti de ça...
Il y a un script. Là où Échec est mort, globalement, c'est Steven est trop fort, Steven dans le coma, Steven se réveille du coma au bout de 7 ans, il se tape l'infirmière, il pète la gueule à tout le monde, fin du film.
Alors que même dans le coma, il est trop fort.
Même dans le coma, il est trop fort.
Parce que la nana, en fait, elle soulève le truc, elle voit qu'il a une grosse.
Elle lui dit vivement que tu te réveilles.
Voilà,
c'est
incroyable, tu vois. Donc Steven Seagal est trop fort. Alors que là, effectivement, il y a un espèce de truc où tu sens que voilà, il se fait droguer à la fin. T'as tout un truc comme ça. Donc là, c'était encore le Steven. J'ai pas encore cartonné au box-office. Donc
d'ailleurs,
en fait, en gros, je m'en remets aux gens qui savent faire du cinéma, quoi.
À peu de choses près, c'était pas le seul, mais c'est l'un des seuls films où Steven Seagal saigne. Parce que dans tous les autres films, les mecs, ils ont même pas le temps de le toucher.
Moi, je me rappelle que dans L'Ombre Blanche, à un moment donné, le mec, à la fin, il lui met un nion dans la gueule et il a deux traits de sang, là, comme ça, tu sais, sous le.
On arrive à L'Ombre Blanche au moment où il se remettait un peu en cause parce que ses films commençaient à plus marcher.
Ouais, il se remettait en cause.
Je vais essayer de saigner. Ça avait marché pour Nico.
Ouais, c'est vite fait, hein. Parce qu'il fait, ah putain, c'est tout ce que tu peux faire et je vais devoir te défoncer et il le défonce.
Heureusement.
Dire, voilà, quoi. Bah, c'est Steven. Comment est-ce que tu as découvert Steven Seagal? C'est quoi le premier? Est-ce que c'est Nico, d'ailleurs, le premier pour toi?
C'est Nico, le premier que j'ai vu. Je me demande si j'ai vu Steven Seagal en salle, mais pas beaucoup. Déjà parce que il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis en salle.
Puis ça marchait pas, il faut savoir ça. Faut dire ça
marchait partout, France, sauf chez nous, comme Star Trek.
Aux États-Unis, en fait, c'était un gros truc que Steven Seagal se posait lui-même la question. Il disait, je ne comprends pas, en fait, en France, mes films ne marchent pas.
Il y a un point commun entre Steven Seagal et Star Trek. C'était pas donné d'avance.
Ouais.
Il y en a un. Donc, moi, non, ma première rencontre avec Steven Seagal, c'est en vidéo. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est une créature de vidéoclub et j'étais une créature de vidéoclub, donc on s'est rencontrés à ce moment-là. Et c'était, à l'époque, hein, Impact qui parlait du Steven. Et, tiens, un nouveau gars qui fait du cinéma d'action. On l'opposait à Van Damme, que lui, par contre, j'avais déjà vu, parce que je devais avoir vu des trucs pas possibles comme Black Eagle, L'Arme Absolue et Karate Tiger. Et tout d'un coup, tu découvres Nico, tu fais ça, c'est bien ça. Donc ouais, moi tout de suite, il y a eu vraiment le premier contact a été un bon contact parce que comme on l'a dit, le film il est très rythmé, il est pas trop mal écrit, il est très bien interprété, pas par Steven, mais il faudra qu'on revienne sur la distrib, parce qu'il y a quand même du beau monde. Et donc moi c'était.
Oui, alors après pas dans la moi j'adore Pam Grier, hein, mais bon c'est pas son meilleur rôle. Hein, alors c'est bien qu'elle soit dedans, hein, c'est bien qu'elle joue la partenaire de Steven. Voilà, donc ça fait partie aussi des petits trucs un petit peu qui fonctionnent, on va dire, parce que t'achètes à peu près le personnage. Maintenant. Enfin, elle a fait beaucoup mieux que ça.
Bien sûr qu'elle a fait beaucoup mieux que ça, mais justement, dans un film qui, globalement, est entièrement tourné à la gloire de son acteur principal, t'as la plupart des acteurs qui réussissent à exister. Et moi, je trouve que Pam Grier, qui effectivement, je sais pas, là, 10, 15 minutes à l'écran, quelque chose comme ça, peut-être 20, mais je trouve qu'elle existe, elle crée un personnage qui est plutôt touchant et que t'as envie de voir arriver jusqu'au bout de cette histoire. Et c'est pas franchement sûr parce que tu sais qu'il y a des gens qui vont claquer.
Après, il y a Sharon Stone, mais bon, ça c'est pareil. Sharon Stone, on va dire que c'est pas son meilleur rôle non plus.
Pour le coup, tu vois, elle, je trouve qu'elle n'y arrive pas. Autant Pam Grier, elle existe avec très peu, elle crée quand même un personnage. Autant, globalement, Sharon Stone, c'est un peu un berceau qui pleure, hein, parce qu'elle tient le bébé dans toutes les scènes sans exception et elle chiale dans un dialogue sur deux qu'elle a, quoi.
Bah, c'est quand même un truc assez.
Pas de sa faute, hein.
C'est quand même un film assez macho, hein. Ouais. Ça, il faut. Enfin, je veux dire, bon, en même temps, si vous connaissez Steven Seagal, c'est facile de dire ça, quoi. Mais le truc, en fait, en gros, c'est que dans ce registre-là, bah, elle joue juste la mère au foyer, quoi. Et en fait, bon, son rôle, il est nul. Elle a pas grand chose à jouer ou à défendre, donc bah forcément ça fonctionne pas, quoi. Tu as parlé de Van Damme, alors ça c'est vachement intéressant parce que pour le coup, Jean-Claude Van Damme a vraiment en fait cartonné, comment dire, quand il a commencé en France, en fait direct avec Bloodsport, quoi. Et ça a participé aussi en fait de la rivalité. Alors je pense que la rivalité existait aux États-Unis, quoi, mais ça a participé de la rivalité entre les deux acteurs parce qu'on savait qu'il y avait une rivalité Stallone-Schwarzenegger, mais il y a aussi une rivalité Steven Seagal-Jean-Claude Van Damme. Qui est lié au chiffre du box-office, quoi, puisque c'était les deux prétendants, on va dire, c'était les deux musculeux phase B, quoi, on va dire.
C'était ça, et qui en plus avait des résultats qui étaient globalement tout le temps les mêmes et tout le temps dans les mêmes eaux. C'est-à-dire que tu sortais un Van Damme au cinéma, tu t'en sortais pour à peu près 50 millions de recettes. Tu sortais un Steven au cinéma, tu t'en sortais pour à peu près 50 millions de recettes pour des budgets qui étaient sous les 10. Mmh. Donc c'était à chaque fois des très bonnes affaires. Par contre, ils avaient tous les deux ce plafond de verre que Seagal a conservé jusqu'à Pierre Lambert. Je sais pas si Van Damme l'a brisé, mais
Van Damme, il est pas arrivé à ces niveaux-là, mais par contre, en fait, il cartonnait beaucoup plus à l'international. Donc il faisait plus de 100 millions à l'international, Van Damme, en fait, sur ses films.
Il est fort, ce Jean-Claude aussi.
Bah, c'est Jean-Claude.
Parce que il y a beau avoir une rivalité entre les deux, vous êtes sur stéroïdes, hein, on aime les deux.
Et ouais, mais enfin, pas pour les mêmes raisons.
Pas pour les mêmes raisons. En même temps, si, parce qu'ils ont tous les deux accompli des choses. Parce que les deux, ce sont pas des très bons acteurs, donc ce sont devenus souvent des sujets de moquerie faciles. Bon, Seagal avec le temps passant et Van Damme avec le temps passant, en plus, ils ont vieilli de façon compliquée, on va dire. Mais c'est facile de se moquer de ces gens-là. Et en même temps, s'il y a bien un endroit où on va dire non, mais ok, moquez-vous autant que vous voulez. Mais vous avez vu le nombre de choses qu'ils ont accompli, ces gens-là? Enfin, ils ont l'un comme l'autre, ils sont partis de rien.
Ils ont un passeport russe.
Ils sont devenus des superstars dans leur milieu. Ils ont connu tous les deux plusieurs carrières. Ils ont tous les deux réalisé des films dont l'un est un peu le Citizen Kane. C'est bon, là pour le coup, c'est Steven Seagal qui gagne, hein, parce que The Quest, c'est quand même pas très bien.
C'est vrai.
Mais je trouve que ce sont des gens qui se sont forgés petit à petit, qui nous, quand on était gamins, on disait, mais en fait, c'est possible. Tu peux être un petit Belge de Bruxelles et devenir quelqu'un. C'était aussi une façon de vivre le rêve américain. Tu peux être un mec dont t'as jamais entendu parler. Et tout d'un coup, il arrive sur un écran. Il avait même pas encore son catogan, qui est normalement pourtant son pouvoir magique. Et il y arrive dès son premier
c'est
film.
C'est pour ça qu'il saigne, bon, celui-là.
C'est pour ça qu'il saigne.
Parce qu'il avait pas son catogan, voilà. Quoi.
Le catogan est arrivé l'année après. Enfin, deux ans après avec Échec et Mort.
En tout cas, pour terminer sur la logique, en fait, de Steven qui ne comprenait pas pourquoi ça marchait pas, en fait, effectivement, il est, je me rappelle d'interview de lui dans la presse française où il disait clairement, mais pourquoi le public français ne vient pas voir mes films? J'espère que ça va changer. Alors, c'était avec l'époque d'Under Siege. J'espère que ça va changer avec Under Siege, avec Piège en haute mer, quoi. Ce qui a été le cas, d'ailleurs, hein. En fait, le film a vraiment marché, quoi. Mais en gros, c'est vrai que tous ces films-là, que ce soit Échec et Mort, que ce soit Nico, que ce soit Désigné pour mourir, et Justice sauvage n'est carrément pas sorti en France. En fait, il est sorti directement en vidéo, quoi. C'était un cap, surtout que le film avait vraiment marché aux États-Unis, quoi. En gros, bon bah voilà, Steven Seagal se posait la question. Il disait bon, bah, moi je fonctionne pas. Warner a été en train de lâcher l'affaire. C'est juste qu'il y a eu un gros blockbuster et du coup il a été vendu comme tel, quoi. Hein. C'est le cas de d'Under Siege, quoi. Mais avant c'était des petites séries B. Et ce qui est déjà le cas de Nico, hein. C'est-à-dire que c'est une série B. Somme toute assez modeste, hein, fondamentalement. C'est pas plus modeste, en tout cas, la série B, que Steven lui-même dans le film, quoi. Et voilà, parce que c'était, je crois que c'est Sarah Stone qui disait ça. Il disait il se prenait déjà pour, pour un mec absolument incroyable et formidable à l'époque de Nico, déjà sur le tournage.
C'est-à-dire, hein, que bon, quand t'es la résurrection de Dalai Lama, qui est pas encore mort, c'est quand même pas facile, toi. Donc il faut assumer.
J'ai l'impression que tu peux être la résurrection du Dalai Lama quand tu donnes assez d'argent. Si tu veux, à la cause, tu vois, pour avoir ce statut absolument que même, je crois, Richard Gere doit avoir aussi. Enfin, je sais pas combien ce statut-là.
Donc, pour être résurrection de Dalai Lama, faut vraiment être un très très bon acteur, quoi.
Voilà, c'est ça.
Comme Richard ou Steven.
Faut qu'on y croit, quoi.
Ouais, c'est
je vais peut-être terminer. Est-ce que t'as des trucs à rajouter? Parce que moi, je pense que, je sais pas si t'es au courant, mais Steven a parlé de ça il y a récemment. Alors, Steven, il a un peu arrêté sa carrière, j'ai l'impression, hein. Tu vois,
ouais, en 2000, que, ouais.
Voilà, en 2010. Non.
En 2000.
Alors, en fait, il y a des films qui ont arrêté de sortir, si tu veux, depuis un moment, quoi. Je sais parce qu'en fait, t'as des gens qui nous demandent comment ça se fait que Yannick ne traite pas des Steven Seagal dans son émission qu'on fait pour Capture, la minute Yannick dedans. Mais tout simplement, c'est qu'il n'en sort pas. Tu vois, il n'y a pas de nouveau Steven Seagal et je crois qu'il les a, je pense, tous traités à l'époque d'Opération Frisson, quoi. Mais il y a eu une rumeur comme quoi il allait faire la suite de Nico. C'est-à-dire la suite de Above the Law. Donc.
C'était plus qu'une rumeur. Steven avait tweeté. Il avait tweeté Above the Law 2, quoi.
Ouais. Il avait juste tweeté ça.
Ouais.
C'était le scénar, quoi.
Il avait tweeté ça en 2016 et du coup, ça officialisait quasiment le projet. Bon, en même temps, nous sommes en 2022. Si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. Steven Seagal fête ses 70 ans cette année. Il vient de les avoir, en fait. Il les a eu en avril. Donc, il n'y a vraiment pas longtemps. Et bah, du coup, bon, bah, il y a 6 ans, il avait 74 ans. Il avait 64 ans, pardon. Je suis très loin en calcul. ça commence à être un peu vieux pour être un héros d'action.
Ouais, puis en fait, il a 70 kilos de plus aussi, on va dire, hein, parce que c'est...
Accessoirement. Mais on a vu dans certains de ses nouveaux films qu'il est capable de combattre en étant assis. Et ça, gagner quand même.
C'est pas donné à tout le monde. Donc, voilà, quoi. Alors, donc, Nico 2, ça t'inspire pas beaucoup, t'y crois pas trop, toi?
Bah, j'y crois pas trop, surtout que c'est...
Fake news.
Enfin, même si ça se faisait, j'y croirais encore moins, je veux te dire, parce que...
Moi, j'y vais direct.
Mais ça, c'est parce que tu as des perversions. Moi, je sais que c'est un film d'une époque révolue, une époque que j'adore, une époque que j'aime bien revivre de temps en temps. Mais en fait, si j'ai envie de revoir Nico, je vais voir Nico. J'ai un Steven qui a 35 ans, qui est longiligne, avec un film qui a la pêche, plutôt que d'avoir un truc qui va être encore un projet sinistre, de sinistrose nostalgique à deux balles. Non, merci.
Bon, la nostalgie, chez Steven, je sais pas ce que ça vaut, hein, tu vois. Mais alors,
chez Steven, non, mais chez les gens qui vont donner le pognon aussi.
D'accord. Mais tu sais, en fait, il y avait ça, il y avait aussi l'idée de, à un moment donné, de faire une suite. Alors, c'est beaucoup plus ancien, hein, de faire une suite à Under Siege, Under Siege 3.
Ouais.
Mais je sais pas trop sur quoi ils voulaient le faire. Parce que c'était un die-hard exploitation, en fait. Ouais, voilà, donc en fait, là, les mecs, je pense qu'ils étaient emmerdés parce que tout a été fait, quoi. Donc, mais il était question de faire ça, quoi. Et je crois que c'était pareil au début des années 2010 ou un truc comme ça, ou 2012, 2013, tu vois. C'était, Warner se disait, est-ce qu'on fait un Under Siege, ouais, avec Steven, quoi.
Déjà, en fait, en 2001, toujours avec Warner, quand il a fait Exit Wounds, qui s'appelle Hors Limite en français, il était déjà au fond du gouffre. C'était déjà devenu un acteur de vidéoclub, quoi, en gros. Et c'était déjà Warner qui lui disait, je veux pas dire Warner a sauvé Steven, mais en tout cas, c'était aussi un dernier appel et ça avait fonctionné. Donc moi, je pensais qu'il allait revenir. En fait, il est pas du tout revenu. Il a derrière, effectivement, fait Mission Alcatraz et enchaîné les trucs pourris, quoi.
Ouais, mais alors le problème, en fait, si tu veux, c'est que bah c'est pareil. En fait, ça a un petit peu marché, celui-là, parce qu'ils lui ont demandé de perdre du poids. Ils lui ont dit, bon, ça serait bien que tu... Voilà, ils ont essayé un peu de jouer.
Ils font même des blagues dessus.
Ils font des blagues sur Steven en soi, parce qu'à un moment donné, c'est quand même difficile de le prendre super au sérieux, hein, faut être honnête, quoi. Mais après, le type, il s'est un peu aussi perdu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est des mecs, c'est comme Van Damme. En fait, c'est des mecs que tu payes 4-5 millions pour avoir leur nom. Et globalement, en fait, le film, il coûte 1 ou 2 millions derrière. Et en plus, les mecs, comme Steven, ils se pointent même plus. Il se pointe plus, bah, sur les plateaux.
Il y a ça aussi, c'est que quand t'as un gars qui non seulement n'y croit plus, vient uniquement pour son chèque et qui essaye même pas. Enfin, si toi t'y crois pas, pourquoi moi j'y croirais, quoi.
Alors que c'est ce qui est bien avec Nico, c'est que justement tu vois que déjà à l'époque il se donnait un peu. Il y a quand même une scène où il est sur le toit d'une bagnole, mm-hmm. tu vois, et il est accroché. Alors bon, les plans larges, tu vois bien que c'est pas lui, quoi. Mais bon, à la limite, film d'action de cette époque-là, quoi, tu vois.
Quand c'est du travail de cascadeur, c'est pas lui qui le fait, mais s'accrocher à une bagnole pendant qu'elle roule, même si elle roule à 30 à l'heure, ça suffit pour se faire mal, hein, si on tombe. Hein, donc il y a un danger dans une cascade.
Mais ce que je veux dire surtout par rapport à ça, c'est qu'il le faisait, quoi.
Il le faisait. Il y a aussi un dernier truc qu'on n'a pas dit, c'était le fait que Nico, en fait, c'était le titre de travail du film aux États-Unis et c'est devenu le titre international. Et il s'appelle donc Above the Law en anglais. Et c'est une anecdote qui est très connue, donc je pense que tous les gens de Stéroïde le savent, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y en a un nouveau qui ne savait pas. C'est que la plupart, du coup, des films de Steven Seagal sont toujours en trois mots. Il y a Under Siege qui est une exception, mais sinon c'est Above the Law, c'est Out of Justice en anglais, hein,
évidemment. Out for Justice, pardon.
C'est Hard to Kill, Échec et mort. C'est Mark Fordes et même tous ceux d'après que je connais un peu moins, The Glimmer Man. La plupart des titres de Steven Seagal sont en trois mots. Et c'était quelque chose qu'il voulait vraiment.
Ah ouais.
C'était un côté presque superstitieux de dire quand mes films sont en trois mots, ils marchent. Et il a décidé de casser un peu cette règle avec Under Siege, sauf qu'après il a fait Under Siege 2 Dark Territory, il y avait beaucoup trop de mots, ça a pas marché, il est revenu à 3.
Trop de vocabulaire.
Voilà.
Ouais. Alors, s'il y a Nico 2 quand même, malgré tout, tu vas venir le faire ici.
Écoute...
Voilà, tu t'engages. Ça y est, c'est fait. Bah parce qu'en fait, il faut le préciser. Regardez, là, il m'a ramené son petit coffret, quoi. T'es quand même un fan de Steven. Tu les achètes par paquet de 12. Hein.
Steven Seagal collection. Regarde cette belle
partout.
Image.
Nico Above the Law et Executive Decision. Comme ça, on a déjà parlé, quoi.
Ouais. Ouais.
Donc, fallait quand même le dire, quoi, que t'es un fan.
Ah bah oui, j'ai quasiment... D'ailleurs...
Comme nous tous.
Et j'ai presque envie de dire à nos amis de Warner, le Blu-ray de
Terraminé,
c'est quand ils veulent, hein. C'est quand vous voulez. Hein.
Le Criterion, le 4K.
Le 4K directement avec un remaster. Ok, vous aurez 15 acheteurs, mais on l'achètera.
Mais avec la VF, hein.
Obligé, la VF d'origine.
Alors avant de terminer, ouais. Je vais passer sur. Je vais faire un petit coucou à Hélène Méric. Donc Hélène Méric, que vous connaissez peut-être parce que si vous avez. Vous savez, comme moi, en fait, vous avez grandi avec les années Starfix, qui était une journaliste, et qui m'a envoyé son livre, en fait, qui s'appelle Dans leurs gros bras, qui est une compilation, en fait, de parce que c'est une grosse fan de. Comment dire. De cinéma musculeux comme nous, quoi.
Femme de goût.
Et voilà, exactement. Donc je le mets là, regardez, hop. ça apparaît comme ça si ça tient. Et en fait, il y a une interview de Steven. Alors, en fait, c'est une compilation de toutes les interviews qu'elle a faites à l'époque dans les années 80-90. Et en gros, ce qui est plutôt sympa là-dedans, en fait, c'est que bah voilà, c'est retranscrit tel quel. Donc en fait, en gros, t'as vraiment les interviews de l'époque. Et t'as une interview de Steven, époque Under Siege, je crois.
Et elle a réussi parce que il était quand même célèbre pour être particulièrement taciturne en interview.
Bah, il est assez taciturne. Hein. Ça reste Steven Seagal. Hein. Moi, je l'ai jamais interviewé, mais tu vois, je pense que personne s'en sortira.
Voilà, tous les bruits que j'ai pu entendre, effectivement, c'est quand t'interviewais le bonhomme, il te répondait de façon quasi monosyllabique, en faisant une gueule pas possible, parce que fondamentalement, la promo, ça l'intéressait pas, quoi. Mais donc, pardon, je t'ai interrompu.
Non, pas du tout. Et alors, bon, du coup, bah, c'est Hélène, elle a écrit dans Starfix, elle a écrit dans Ciné News, qui était aussi un gros magazine de cinéma d'action. Enfin, en tout cas, ça traitait. Bah, ouais, non, mais Hélène, elle était un peu partout à cette époque-là, quoi. Et donc, voilà, bah, en fait, dans ce numéro-là, enfin, dans ce bouquin, pardon, il y a une interview de Van Damme, Stallone, Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Bronson, Norris, Carl Weathers, Steven Seagal, donc bon, bah voilà, en fait,
du bon monde.
C'est une amie de la famille. Merci Julien.
Bah de rien, merci à vous tous, merci à Steven surtout.
Merci à Steven, on attend ton livre, hein.
La
vie ségalienne, et plus si affinité. Mm-hmm. Voilà. Merci à la technique, qu'on vous ne pouvez pas voir, mais qui est très très beau, quoi. Merci à vous tous qui nous suivez, il faut que je m'adresse à la caméra, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué. Pour nous soutenir, une seule adresse, enfin non, pas une seule adresse, j'ai dit tout le temps une seule adresse, mais c'est pareil, il y en a plusieurs en fait, il y a Tipeee, il y a Patreon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux habituels, et puis mon cher Julien, on va se retrouver prochainement avec un...
Au plaisir.
Un bon film à toi.
Au plaisir aussi.
Voilà. Merci à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.